Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
18h01 sur Campus, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du Pédalo. La Topette, le journal d'investigation locale lancé par Marie Amono et Julien Collinet, vient de sortir son 13e numéro. Le gros dossier du trimestre, mais où vont nos déchets? On ira également faire un tour du côté des usines de luxe ligériennes ou encore des greniers Saint-Jean, où une soirée caritative financée plein pot par la région s'avère finalement être un moyen pour des associations d'extrême droite proches de Zemmour et de la Manif pour tous de récolter de l'argent. En deuxième partie d'émission, restez bien à l'écoute car ce sera le moment pour Isabelle de vous faire ses recommandations sorties de la semaine. Ajustez votre gilet de sauvetage, le pédalo lève les voiles.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Mais où vont nos déchets? C'est la question posée en une de La Topette. Et avec nous dans les studios, les deux journalistes fondateurs de La Topette, Marie Amono et Julien Collinet. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Hugo.
Marie, pas Marion?
Marie,
oui, je sais pas, j'ai écrit Marion. Merci d'avoir répondu à notre invitation trimestrielle sur les ondes de Radio Campus. Marie Amono, dans le Maine-et-Loire, un habitant jette en moyenne 244 kilos par an dans ses poubelles. Notre département est d'ailleurs le meilleur élève en France. Pourquoi avoir choisi de faire ce dossier alors que, comme ça, de prime abord, tout va bien?
Ah oui, on se dit de prime abord tout va bien, faut pas oublier non plus que ça fait des années que ce soit au niveau du gouvernement, de l'Union européenne et même au niveau des collectivités locales, on fait voter des lois ou des mesures visant à réduire les déchets. Et ça ne marche pas. Globalement, ce poids, il reste toujours le même depuis 10 ans. Il n'a pas bougé. Alors, ça change un peu. C'est-à-dire qu'il y a plus de poids maintenant dans tout ce qui est les poubelles jaunes, les poubelles des emballages. Mais ça reste des déchets quand même, les emballages. Et il y en a moins dans les ordures ménagères. Mais globalement, ça stagne. Donc, on peut s'interroger sur ça. Et au-delà de ça, avec ce dossier qui fait 3 pages, on voulait vraiment se poser la question de vraiment, où est-ce qu'ils arrivent? Enfin, où est-ce qu'ils atterrissent ces déchets? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'ils deviennent, ce qui n'est pas forcément connu de tous, et ce n'est pas forcément facile d'ailleurs d'avoir les réponses.
C'est vrai que j'ai l'impression de découvrir quelque chose que j'ai toujours su. J'étais intimement persuadé que quand je mettais mes déchets, mes emballages dans la poubelle jaune, ils étaient recyclés. Ben, vous révélez que notamment 20% du volume des déchets qui transitent par le biopôle Anjou Activalor ne sera finalement pas recyclé et qu'il sera soit enfoui, soit incinéré.
Oui, alors c'est ça. Donc tout ce qui va à ce centre à Saint-Barthélemy, là où il y avait l'ancien biopôle, c'est tout ce qui est donc les poubelles jaunes. Et de base, de toute façon, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Tous les emballages, maintenant, on les met dans la poubelle jaune. Donc on a tendance à se dire naïvement...
C'est les recommandations. Hein.
C'est ça, voilà. Donc on a tendance à se dire naïvement que c'est recyclé. Alors déjà, c'est pas forcément recyclé. Donc oui, il y a 20%, donc quand même un cinquième de nos poubelles jaunes, elles partent soit incinérées du côté de Beaugé, soit enfouies carrément, donc sous terre du côté de la Séguinière, donc près de Cholet. Donc ça pose question. Alors dedans, c'est aussi parce que dans les poubelles jaunes, des fois, on met des choses qui n'avaient rien à faire là-dedans. Il y a aussi tout ce qui est les déchets très petits, les déchets de moins de 5 cm de diamètre. Il faut savoir que c'est pas recyclé. Donc là... Par exemple, le bouchon d'une bouteille en plastique n'est pas recyclé s'il est tout seul. Et surtout, en fait, il y a tout un tas d'emballages qui ne sont pas recyclables. Donc, c'est même pas qu'ils ne sont pas recyclés, c'est qu'ils ne sont pas recyclables. Les industriels continuent de mettre des matières dont on n'a pas de filière.
Pourtant, vous dites que la recherche avance vite.
La recherche avance vite. Donc, par exemple, il y a quelques temps encore, on nous disait de mettre les pots de yaourt dans les poubelles jaunes, alors qu'en fait, on ne savait pas recycler les pots de yaourt. Mais il y a encore tout un tas d'emballages qui ne sont pas recyclés. Il y a même des nouvelles matières qui arrivent et qui sont...
On ne sait toujours pas recycler.
Voilà.
Et ça, pour des raisons purement marketing. Et c'est ça aussi que vous dénoncez dans votre article, c'est qu'il y a trop de déchets. Et la deuxième moitié de cette enquête est consacrée justement au fait que il y a trop de déchets et comment faire pour réduire son nombre de déchets produits son kilogrammage de déchets produits.
On met beaucoup l'accent, en tout cas, dans tout ce qui est communication vis-à-vis du grand public, sur le fait que nous, citoyens, il faut qu'on fasse attention. Il y a le développement de tout ce qui est épicerie vrac, etc. Mais au-delà de ça, il faut se poser la question aussi de qui produit les déchets. Est-ce que ce sont les citoyens ou qui n'ont pas eu le choix, en fait, d'acheter de toute façon des produits emballés dans tel contenant ou les industriels. Et pour revenir à ce qui est recyclable ou non, c'est quand même assez fou de se dire que même en 2023, on est déjà en 2023, des industriels peuvent mettre par exemple sur le marché, il y a des nouvelles bouteilles en plastique pour le lait, c'est une nouvelle matière un peu plus brillante et qui permet de ne pas avoir d'opercule. Vous avez peut-être vu ça chez vous. Eux, ça leur permet de réduire en fait le coût de production vu qu'il n'y a plus d'opercule. Mais cette nouvelle matière dont ils sont très fiers, elle n'est pas recyclable. La filière, en tout cas, de recyclage n'existe pas. Donc ça pose quand même la question à un moment donné de à qui la faute, entre guillemets, et est-ce qu'il ne faut pas aussi que tout le monde se responsabilise, même s'il existe déjà des leviers. Hein, les industriels doivent payer des contributions, mais tout de même, on peut s'interroger.
Vous êtes allé notamment visiter le site du centre de tri de Saint-Barthélemy. Qu'est-ce qui vous a marqué là-bas pendant cette visite ?
Alors, c'était assez fou à voir. Hein, déjà, quand les déchets ils arrivent sur place, ils sont, donc c'est des emballages. Hein, donc, il n'y a pas énormément d'odeur par rapport à tout ce qui est déchets des poubelles classiques, mais quand même. Il y a des montagnes de déchets, vraiment. Tous les camions déchargent, en fait, dans des grandes cellules de béton, et ça peut faire 6 mètres de hauteur, donc c'est quand même déjà très impressionnant. Et ensuite, les déchets, en fait, ils vont suivre tout un petit parcours. Donc globalement, le gros du tri, il est mécanisé. Donc il y a tout un tas de tapis roulants, de trieurs optiques, de cylindres qui trient les déchets. Et ensuite, arrive une salle de triage manuelle, où là, il y a une petite dizaine ou vingtaine selon les heures de personnes qui vont faire le tri final, on va dire. Donc regarder sur les tapis roulants les emballages qui arrivent et voir si c'est dans le...
Tout est refait à la main.
Tout est refait à la main, à une cadence infernale, au point qu'on m'a expliqué que des fois, quand la ligne s'arrête, il y en a qui ont le mal de mer, tellement ça va vite, en fait, de voir des emballages passer. C'est un boulot extrêmement pénible. Et c'est très impressionnant quoi, de voir ça. Enfin, je recommande, niveau sensibilisation à notre production de déchets, d'aller visiter le site.
Oui, en métier pénible, vous consacrez également un encadré au métier des boueurs.
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, qui dit poubelle dit aussi ceux qui les ramassent. Le métier des boueurs, c'est franchement difficile. Donc, on s'est intéressé aux éboueurs sur Angers-Loire Métropole, sur l'agglo. Donc déjà, ils sont payés à peu près au SMIC. Enfin, en tout cas, ils débutent à peu de choses près au SMIC. C'est des professions qui sont quand même très difficiles d'un point de vue physique. Hein, surtout ceux qui sont à l'arrière, en fait, des camions et qui soulèvent tous ces sacs ou tous ces bacs.
Mais aussi difficile d'un point de vue psychique, parce que c'est un métier qui est très mal considéré.
Qui est très mal considéré déjà. Et d'ailleurs, c'est mal considéré aussi d'un point de vue salaire. Et au-delà de ça aussi, ils sont victimes de beaucoup d'actes d'incivilité. Il y a même eu, il y a quelques mois, un éboueur, un reaper, ils disent dans le jargon, qui a été renversé par une voiture. Parfois, c'est accidentel, parfois, c'est volontaire. Donc, on peut s'interroger quand même.
Dans le cas que vous citez, là, c'était volontaire.
Là, c'était volontaire la dernière fois que c'est arrivé. Et donc, oui, c'est une profession vraiment, on pourrait dire en souffrance, en tout cas, qui n'est vraiment pas reconnue, alors que c'est primordial, évidemment, que quelqu'un ramasse les déchets.
Je voulais juste rebondir sur un point. Ouais. Par rapport au fait qu'il y aurait 80% des déchets qui sont recyclés, c'est pas vraiment le cas. En fait, c'est 80% des déchets qui sont recyclables. En fait, il n'y a aucun moyen de suivre exactement la destination finale de ces déchets. Ce qui est assez hallucinant quand même, c'est que par exemple, il y a un seul endroit où on peut recycler tout ce qui est papier, de carton, je crois que c'est le contrôle de Marie qui a écrit l'article, mais qui est dans les Vosges. Donc il faut imaginer déjà que c'est des milliers et des milliers de camions chaque année qui traversent l'Anjou, qui viennent même de partout en France pour acheminer ces déchets papier, carton vers les Vosges. Mais ensuite, on n'a aucun moyen de contrôler, de savoir si vraiment la filière de recyclage effectue ce travail. Ça se pose notamment sur la question plastique, où c'est pas forcément rentable, en fait. Et donc, il y a vraiment un inconnu, et ça, on a même pu étudier des rapports parlementaires, et même des parlementaires qui ont normalement accès à tout ce type d'informations, eux sont incapables d'arriver à la conclusion que la totalité des déchets est effectivement recyclée.
Il ne faut pas confondre recyclé et recyclable, en fait. Enfin, ça peut être recyclable, mais ça ne veut pas dire forcément que ce soit recyclé.
Oui, parce qu'en fait, quand on considère que le déchet est recyclable, on le met dans une grosse balle. Hein, vous décrivez ça très bien dans votre visite du centre de tri de Saint-Barthélemy. Et ensuite, ces grosses balles, elles vont dans des camions, on ne sait pas trop où elles vont, quoi.
Où on sait à peu près où elles vont, et certaines vont très loin. Hein. Tout ce qui est aluminium souple, comme ils appellent, ça va jusqu'en Allemagne. Les films plastiques, par exemple ceux autour de packs de bouteilles d'eau, ça va jusqu'au Portugal, c'est quand même assez loin. Mais ensuite, on ne sait pas si dans cette usine de recyclage, ce sera bel et bien recyclé.
En tout cas, c'est un très beau dossier, 3 pages en une du 13e numéro de La Topette. On est toujours avec Maria Monod et Julien Collinet. Et vous avez également publié une... Alors, vous avez un certain nombre d'enquêtes, mais j'ai choisi d'en parler d'une deuxième, notamment un article titré « Soirée caritative, l'extrême droite tire les ficelles » que vous avez écrit, Julien, que tu as écrit. Vous révélez que la mairie d'Angers a mis à disposition gratuitement les greniers Saint-Jean et la région subventionnait à hauteur de 40 000 euros un événement organisé par des militants d'extrême droite. Et alors, il y a une liste assez étonnante de personnalités qui font partie du conseil d'administration de l'association qui organisait l'événement. Alors un peu pêle-mêle, hein, François-Louis de Bourbon, prétendant la couronne de France. Prétendant la couronne de France. Le neveu d'Hervé de Barbier de Blinière. Il y a tellement de deux qu'on s'y perd. Ancien chef d'état-major de l'OAS. Ou encore Stanislas de Bensman, un entrepreneur qui avait réuni en 2021 des grands patrons autour d'Éric Zemmour. Très étonnant ça.
Ben c'est très étonnant, ouais. C'est un événement qui, a priori, est bien sous tout rapport, parce que c'est en fait une soirée caritative qui veut mettre en avant des associations locales, angevines, afin de lui récolter des fonds, donc avec des donateurs qui peuvent proposer des dons d'ailleurs assez importants, hein, ça allait de 100 à 3 000 euros. Donc voilà, sauf qu'on a été alerté en fait par des gens qui avaient participé à cette association en dénonçant le fait que derrière l'organisation de cette soirée se cachaient un peu les réseaux proches de Vincent Bolloré ou d'Éric Zemmour. Et en fait, en creusant, on s'est rendu compte que c'était vrai. Alors il faut savoir que c'est pas nouveau, hein. La nuit du bien commun, c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années, mais qui est en train de se développer partout en France. Et il y a des éditions qui sont organisées dans plusieurs villes. Notamment, il y en a une au Puy du Fou l'an dernier. Il y en a une à Nantes également. Et là, c'était la première fois au mois de juin que ça avait lieu à Angers. Effectivement, ce qui pose encore plus question, c'est que, comme tu l'as dit, la ville a mis à disposition la belle salle des Greniers Saint-Jean, qui est quand même une des salles les plus prestigieuses de la ville. Et surtout, la région a apporté un soutien financier à hauteur de 40 000 euros.
Donc, ça paraît. C'est des sommes qui sont colossales. Est-ce que la ville, alors dans l'article il n'y a pas, mais je suppose que la ville ni la région n'ont souhaité réagir.
En tout cas, ils m'ont répondu sur mes questions qui étaient surtout de savoir si, par quel soutien ça s'était manifesté. Et c'est ça qui est assez étrange aussi. Et souvent, l'information est dure à trouver. Ça, c'est normalement voté dans des délibérations, etc. Mmh. Et pourtant, pour avoir épluché les délibérations des deux collectivités en question, je n'ai pas trouvé trace de ça, mais elles ont quand même répondu sur. Sur le fond, pour résumer un peu ce que disait la ville d'Angers, c'était surtout que il l'a prêté comme il prêterait les greniers Saint-Jean à n'importe quelle association. Donc, je vous propose Radio Campus que quand vous avez un événement, vous pourrez bénéficier gratuitement de la salle des greniers Saint-Jean. Ça devrait être assez facile.
Merci pour le tuyau, on n'hésitera pas. Est-ce qu'ils avaient conscience des personnes à qui ils prêtaient et qu'ils ont subventionné?
Mais non, justement, en fait, c'est ça aussi. Pour les collectivités quand même, il faut un peu être un peu naïf, je pense, pour ne pas l'avoir vu. Mais c'est là où c'est très malin aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont participé, des gens d'associations qui sont tout à fait, qui portent des objets louables, qui ont été sélectionnés, mais qui ne sont pas rendus compte sur le coup, et pour certaines même qui ne s'en sont jamais rendus compte de ce qui se cachait derrière. C'est un peu ce qui est problématique, parce qu'on parle beaucoup de l'extrême droite en ce moment, notamment à Angers, avec des actions coup de poing, avec des militants très radicaux. Mais il y a aussi quand même un petit fond idéologique qui est propre aussi à notre région, et qui est de plus en plus fort et qui essaie de s'institutionnaliser. Et c'est un peu le danger de ce genre d'événement, avec des personnalités qui sont sulfureuses, mais qui vont se donner un peu une bonne image. Mais il y a quand même cette idée de faire passer certains messages. Voilà, les associations qui ont été choisies, sélectionnées lors de cette soirée n'ont pas été par hasard. Il y a beaucoup d'associations qui sont proches de la mouvance catholique, voire la mouvance catholique traditionnaliste. Je ne pense pas, par exemple, que le planning familial aurait été invité à ce type d'événement.
L'association qui a touché le gros lot, 40 000 euros, Café Joyeux, qui est une association un peu particulière, puisqu'ils accueillent, vous le dites très bien dans votre article, c'est une association bien sous tout rapport, qui permet à des personnes qui sont porteurs de trisomie 21 de pouvoir accéder à l'emploi. Sauf que derrière cette association se cache en fait des personnes qui portent des idéaux anti-IVG et qui proches de la communauté de l'Emmanuel.
C'est ça. Bah, c'est encore un peu, une fois, le diable se cache dans les détails. Hein. C'est encore, a priori, une belle idée de pouvoir donner une entreprise où peuvent travailler des personnes atteintes de trisomie 21. Sauf que derrière, il y a quand même ce fonds qui est existant dans plein de mouvements catholiques traditionnalistes qui s'opposent à l'IVG, où, en fait, les personnes atteintes de trisomie 21 sont un exemple pour s'opposer à le droit à l'avortement, en fait. Parce que, aujourd'hui, en France, il y a beaucoup de tests pour apprendre, savoir si son fœtus est atteint de trisomie 21, et ensuite il est possible d'avorter. Voilà, du coup, ça devient un symbole. Et en ouvrant donc ce café qui devrait ouvrir normalement l'an prochain à boulevard Foch à Angers, il y a cette idée-là dans le fond. Et en fait, quand on voit les gens qui sont derrière à l'origine de ces cafés joyeux, il n'y a aucun doute, ce sont des gens proches de cette mouvance.
Ce qui était intéressant aussi, c'est les personnes qui étaient présentes et qui animaient cette soirée. Il y avait Roch Brancourt, élu à la ville d'Angers, mais également le directeur de RCF Anjou, Raphaël Delacroix, qui animait la soirée. C'est des personnes qui sont habituées des beaux événements de la sphère angevine, et ils sont aussi là.
Bah, effectivement, alors Roch Brancourt était même parrain de la soirée, il est même intervenu sur la scène ce soir-là en tant que vice-président de la région, parce que la région subventionnait l'événement, d'ailleurs il ne l'a pas précisé, mais pourtant Roch Brancourt fait partie de la droite républicaine traditionnelle, il est adhérent au Parti Républicain, mais c'est vrai qu'il est assez connu sur Angers pour sa forte opposition qu'il a pu avoir contre le mariage pour tous.
Il refuse de célébrer les mariages homosexuels.
Exactement, comme son confrère du conseil municipal Maxence Henry qui était également présent, et donc c'est là aussi où il y a des liens, des passerelles, c'est vrai, qui existent entre une partie de la droite qui est plutôt conservatrice et l'extrême droite, et ça se voit d'ailleurs au niveau national, où on le voit avec un rapprochement sur certain nombre de sujets entre les positions du Parti Républicain et l'extrême droite, ce qui est de plus en plus inquiétant.
Un article donc à retrouver en dernière page, en avant-dernière page du 13e numéro de La Topette. Peut-être pour conclure, j'aimerais revenir sur, et on revient au tout début de ce numéro 13 de La Topette, vous consacrez une double page au quotidien des travailleuses, des ouvrières, des entreprises Vuitton et Longchamp qui sont ici, dans le Maine-et-Loire. Est-ce que vous avez pu rentrer dans les locaux de ces usines?
Alors, c'est des forteresses, hein, de toute façon.
Parce que vous avez des descriptions quand même très, très précises. Et je me suis dit, est-ce qu'ils ont pu rentrer et franchir les portes?
Alors, en cherchant bien, on peut trouver en fait des vidéos, notamment de l'usine Vuitton. Enfin, Longchamp a tendance à un peu plus ouvrir ses portes. Mais on n'est pas rentré dans Longchamp. On peut voir en fait des vidéos de l'inauguration des ateliers Vuitton à Beaulieu-sur-Layon qui ont eu lieu en 2019. Et ça avait été une inauguration d'ailleurs en grande pompe, hein, avec carrément la présence de la ministre de l'emploi de l'époque, c'est-à-dire Muriel Pénicaud, tout le gratin politique local, etc. Parce que c'était un grand événement, évidemment, de se dire qu'il y avait une usine Louis Vuitton qui arrivait dans le Maine-et-Loire. Donc voilà, il faut travailler avec les sources qu'on a. Et surtout, on a rencontré quand même énormément de personnes qui travaillent ou qui ont travaillé dans ces ateliers, notamment pour recouper un peu toutes leurs informations et qui ont permis aussi un peu de nous aider à cartographier l'endroit et à vraiment s'imaginer à quoi ça ressemble. Parce que au-delà de ça, quand il y a des vidéos institutionnelles, vraiment, on va prendre l'exemple de Louis Vuitton, là par contre on va montrer des ateliers très petits en fait, avec des personnes qui font, qui cousent à la main, etc. On voit un côté très artisanal qui n'est pas le reflet en fait d'à quoi ressemblent les ateliers qu'on trouve dans le Maine-et-Loire, qui sont très nombreux.
Tout à fait. Tout au long de ce reportage, vous déconstruisez un peu l'image d'Épinal que nous faisons du luxe. Non, ce ne sont pas des maroquinières qui travaillent le cuir dans des petits ateliers, mais des ouvrières qui travaillent à la chaîne.
C'est ça. Donc voilà, il y a tout un imaginaire que construisent ces marques. Donc dans le Maine-et-Loire, il y a un atelier Louis Vuitton, il y a un atelier Longchamp. Alors Longchamp, c'est pas du luxe, mais les sacs peuvent coûter quand même 800 euros, mais c'est pas très cher par rapport à un sac de Vuitton qui peut aller de 2000 à 10 000 euros. Mais il y a aussi plein d'ateliers de sous-traitance. Donc on parle vraiment de dizaines d'ateliers, hein, et de centaines et centaines de personnes qui travaillent dans le Maine-et-Loire, et qu'on ne voit pas, en fait. On a toujours l'image, voilà, des belles publicités, du papier glacé, et c'est ça aussi ce qui nous intéressait, c'est que c'est des usines, mais ce n'est pas des usines, ou des ateliers, comme ils préfèrent dire, qui ne produisent pas n'importe quoi, et le luxe en France, c'est extrêmement important, hein, toutes les plus grandes fortunes, enfin, beaucoup de... des grandes fortunes françaises se sont bâties sur le secteur du luxe. Donc pour nous, c'était vraiment important de montrer ça. Et oui, c'est notamment aussi pour des questions de manque de main-d'œuvre. En fait, il y a beaucoup de personnes qui rentrent là et qui sont formées sur place. Alors ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas qualifiées, hein, parce qu'elles commencent ensuite à avoir un savoir-faire, etc. Mais on est très loin de l'image de tout cousu à la main, etc. Ouais. La majorité des sacs sont réalisés à l'aide d'une machine à coudre, une machine.
C'est vrai que ce qui marque également, c'est la fierté et l'attachement qu'ont ces femmes à travailler pour ces marques alors qu'elles touchent à peine un SMIC et ont une cadence infernale à la seconde près à respecter. Elles sont très attachées à leur entreprise.
Ça dépend, je dirais. Ça dépend des personnes qu'on a pu rencontrer. Il y a effectivement des personnes très attachées, très fières, qui portent même des sacs pourtant qui peuvent coûter très cher, mais il y a quand même une fierté de faire ce travail. Il y en a d'autres, au contraire, qui sont vraiment en souffrance. Il y a eu beaucoup de départs. D'ailleurs, c'est assez fou. On a reçu énormément de messages depuis que l'article est paru d'anciennes maroquinières, d'anciennes ouvrières, notamment de chez Vuitton, qui se sentaient moins seules, qui étaient vraiment heureuses de pouvoir lire cet article, parce que parfois, elles avaient fait des burn-out, etc. Donc, c'est pas le cas pour tout le monde. Et oui, comme disait Marie, c'est vraiment ce décalage entre l'image d'un produit de luxe, d'un produit d'exception, qui en fait est réalisé dans des conditions pas forcément si magnifiques que ça.
C'est vraiment du taylorisme, hein. C'est-à-dire que, alors c'est un peu différent pour tout ce qui est mâle, parce que Louis Vuitton propose aussi des mâles à 45 euros pour... 45 000 euros, pardon, j'ai dit 45, non, faut rajouter 3 zéros. Mais au niveau de tout ce qui est production de sacs, chaque tâche en fait chaque étape est divisée en tâches. Toutes ces tâches ont été chronométrées, donc c'est vraiment du taylorisme. Mais alors c'est un indicateur qu'il y a au-dessus de chaque poste de travail qui indique que voilà, pour cette tâche-là, vous devez prendre X secondes par sac.
C'est même à la virgule, hein. Ça peut être 7,6 secondes.
Ah oui, c'est vraiment très précis.
Et au-delà de ça, surtout, en fait, pour toutes celles qui débutent, il y a des indicateurs de productivité, de performance qui leur sont donnés. Donc, elles doivent compléter des petits tableaux pour montrer, pour dire, par exemple, que aujourd'hui, j'ai fait tant d'étapes, j'ai fait tant de sacs. Il y a une pression comme ça des chefs d'atelier qui s'instaurent et certaines tiennent. Et d'autres pas. Et les impératifs de production, évidemment, augmentent au fur et à mesure des mois.
J'ai senti dans votre article une pointe d'agacement de votre part. Je vais vous citer. Vous avez plein de petits mots comme ça qui étaient pour moi un peu inhabituels dans votre manière d'écrire vos articles. Vuitton propose un coffret pour ranger une bouteille de champagne à 16 000 euros, mousseux non inclus. Une malle sneakers pour ranger sa collection de baskets coûte 180 000 euros, soit le prix d'une maison. Vous faites également en chute de l'article référence... Je cite la phrase, c'est ce que le secteur du luxe sait faire le mieux, c'est vendre du rêve. Et j'ai trouvé comme ça que vous aviez mis un peu de ressentiment. Est-ce que ça vous a énervé? Est-ce que vous étiez énervé en écrivant cet article? Est-ce que vous étiez en colère?
Surtout, en fait, faire tout ça, c'est parce que ça semble tellement délirant, en fait. Tous ces montants, et même nous, en fait, à force de travailler sur ce sujet, on pouvait perdre le fil des fois, se dire, bah oui, la malle, elle est à 45 000 euros. En fait, c'est comme si, les ouvrières, ça finit presque par devenir une habitude pour elles de se dire ça. Et donc, pour nous, ça nous semblait important, en fait, de réinsister là-dessus. Et donc, dire qu'il y a une malle, elle coûte le prix d'une maison, pour remettre un peu... expression désuète, mais l'église au milieu du village. Et vraiment, parce que c'est très vite étourdissant, en fait, tous ces montants.
Et d'autant plus dans cette période où on rencontre beaucoup dans nos reportages des gens qui souffrent de l'inflation, qui ont de plus en plus de mal à se nourrir. C'est vrai que de se dire que des gens peuvent acheter un sac pour ranger leur basket à 180 000 euros, il y a vraiment quelque chose d'indécent.
L'indécence, vous la décrivez également en faisant des petits calculs. Vous essayez de nous expliquer la fortune de Bernard Arnault. Je vous cite, en gagnant 1 euro par seconde, il faudrait près de 6437 ans pour atteindre la fortune de l'homme le plus riche du monde qui s'élève à 203 milliards d'euros.
Oui, effectivement, c'est un...
6437 ans.
C'est très difficile en fait de se rendre compte qu'il y a un milliard. Pour les gens, un million, ça paraît, allez, on peut concevoir. Un milliard, en fait, ça paraît, c'est juste un zéro de plus. Non, en fait, c'est immensément plus. Et voilà, c'était un peu rigolo de faire des petits calculs pour essayer de se rendre compte que pourrait faire un milliard. Et par exemple, récemment, Bernard Arnault a fait un don de 10 millions d'euros au Resto du Cœur. Ça a fait beaucoup d'images télé, il l'a fait en grande pompe, etc. On a salué sa générosité. Bah, en fait, il faut se rendre compte que par rapport à son patrimoine, si on le rapportait à un Français moyen, en fait, ça ferait un don de 2,50 €. Voilà. Alors oui, c'est généreux de donner 10 millions, mais il faut aussi remettre les choses à leur juste mesure. Et je pense que c'est important que les gens se rendent compte. Et par exemple, ouais, c'est cette histoire de 6437 années, c'est à peu près, voilà, Kylian Mbappé, disons, c'est à peu près le salaire de Kylian Mbappé si il travaillait pendant 6500 ans. Faut voir un peu la démesure de ces montants-là.
Et je reviens à ta question aussi sur notre petite phrase, voilà, est-ce qu'on était aussi en colère, etc. Je pense qu'au-delà de ça, en fait, à la Topette, on essaie d'être un peu en complément aussi du reste de la presse qui existe. Et typiquement, en fait, c'est pas forcément, enfin voilà, le côté indécent des prix, c'est pas forcément ce qui est mis en avant. Et je me rappelle même, quand j'étais plus jeune, je pouvais feuilleter des magazines féminins, où dans les pages mode, en fait, on proposait des robes Chanel à 5 000 €, alors que bah, la personne lambda, en fait, qui achète Glamour ou Elle, elle pourra jamais s'offrir ça. Et donc, c'est aussi ça qu'on essaie de faire, quoi, de porter en tout cas un autre discours, ou en tout cas de changer le point de vue et la perspective, et ensuite le lecteur se fait son avis.
On est en train de se faire un peu déborder par le temps. Je vais vous poser peut-être une dernière question. Si jamais vous deviez nous conseiller un article à lire, celui que vous avez préféré écrire, celui qui selon vous est le plus parlant, qui vous a le plus touché, Julien ?
Il y en a plusieurs. On a fait notamment un sujet qui peut être intéressant pour les Angevins sur le pourquoi de la pub dans l'espace public, qui est une vraie question en fait. Et notamment, si les collectivités locales font ça, c'est en l'échange de services gratuits et en fait en se rendant compte un peu en épluchant les contrats, c'est pas forcément un bon calcul économique et c'est quelque chose qui peut être vécu comme une agression par plein de gens et notamment ces périodes de lutte contre le réchauffement climatique. La publicité est un des moteurs de la consommation d'énergie et de ressources, donc c'est une vraie question.
Marie ?
C'était les sacs de luxe, vraiment.
Ah oui.
Je ne compléterai pas plus.
Écoutez, de toute façon, tous ces numéros, ce 13e numéro est disponible en kiosque, mais également aussi et surtout sur abonnement. Je crois que vous avez besoin qu'on s'abonne d'ailleurs en ce moment. Soutenez la presse locale, c'est toujours important. En plus, ce n'est pas très cher. 12 € pour 4 numéros, 3 € le numéro. Merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions sur les ondes de campus. Et puis, on se revoit dans 3 mois.
Merci beaucoup, à bientôt.
Avec grand plaisir. Peut-être qu'on va squeezer la pause musicale et on va passer directement à la chronique d'Isabelle. Salut Isabelle.
Bonjour à toutes et à tous.
Tu vas bien ?
Bah, ça va super bien.
Cette semaine, tu nous parles de bonheur.
Ben oui, pourquoi pas. Ne changez pas les ondes, vous êtes bien sur Radio Campus Angers et nous parlerons bien de l'agenda culturel de cette semaine. Alors, partons pour le bonheur.
Eh ben, pas le choix. On commence avec Viens chercher bonheur.
Oui, ça fait 20 ans d'existence déjà pour le Festoche et pour cette année 2023, il nous propose 2 jours, 2 scènes, 8 groupes de musique, une déco naturelle et un lieu champêtre. L'idée est de faire participer un maximum de groupes et d'artistes régionaux pour des prix abordables, afin d'ouvrir le festival à un public très diversifié. Ce festival se déroulera vendredi et samedi 22 et 23 septembre à Meynier-le-Vicomte à partir de 20h. Au programme vendredi, nous aurons Ali et Mourad Musset, qui vient de la rue qui est à nous, et Détrac. Et samedi soir, nous aurons Le Pied de la Pompe, Villa Fantôme, ou encore Lovebot Orchestre, Café Frappé, dont on avait parlé il n'y a pas très longtemps pour
Laurence
le Shabada.
Platine, tout à fait.
Et Radio Byzance.
Une ambiance détendue et conviviale tout au long de ce week-end. Une autre piste peut-être pour trouver du bonheur ailleurs.
Cherchez bonheur. Je vous propose de découvrir le groupe Zajigai. C'est un trio de musique slave zigane créé en 2022. Ce groupe est composé de Jules Moreau au chant et à la guitare, Evan Lavignotte contrebasse et chœur, et Nahuel Baeza, violon et chœur. Leur répertoire venu des pays de l'Est est énergique, envoûtant, et la polyphonie de leur voix, un vrai régal. Ça nous offre un bon moment de charme, c'est joyeux, péchu, un vrai moment de bonheur. Donc, ils vont enregistrer bientôt leur premier EP ce mois de septembre, et il sera disponible normalement à la fin de l'année. Leur concert, donc c'est vendredi 22 septembre à 19h15 à la salle Auguste Chupin au lac de Maine à Angers et c'est gratuit.
Et on pourrait presque dire « what else » avec l'ensemble de l'actualité de l'agenda.
Moi j'avoue, Georges Clooney sera un vrai bonheur, mais bon. Donc l'actualité de l'agenda, toutes les autres dates de la semaine bien sûr, sans parler de ceux qui ont déjà trouvé bonheur. Parce qu'il y a des réservations qui sont déjà complètes, comme le Shabada Boom vendredi 22 au Shabada, ou encore les spectacles de septembre du Resto Théâtre à Angers. L'important, c'est de se faire plaisir, non ? On est d'accord ? Alors, Hugo, heureux ?
Eh bien, écoute, avec toutes ces propositions, évidemment, ça ne peut que l'être.
Donc, à très vite et profitez tous des petits et des grands bonheurs. À la semaine prochaine.
Merci beaucoup, Isabelle. Et évidemment, l'intégralité de l'agenda culturel à retrouver sur le site internet de Radio Campus Angers, le www.radiocampusangers.com. Et le pédalo termine sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve dès demain à bord du pédalo pour une émission spéciale Campus Day avec nos copains de Radio G. Le Campus Day annulé cette année, mais qui continue et continuera de vivre sur nos ondes. À demain dans le pédalo et d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.